Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 1 à 18. Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y a un bassin qui s'appelle en hébreu Bethzaata et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi, je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Réveille-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt, l'homme retrouva la santé. Il prit son grabat et se mit à marcher. Or, c'était le Shabbat ce jour-là. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri « C'est le Shabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit « C'est celui qui m'a rendu la santé qui m'a dit « Prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était esquivé. En effet, il y avait foule en ce lieu. Après cela, Jésus le trouve dans le temple et lui dit « Eh bien, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » L'homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le Shabbat. Jésus leur répondit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, non seulement parce qu'il annulait le Shabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu.
Bien sûr, c'est un récit de guérison. La guérison d'un homme sans force. Asthénie, c'est le terme grec désignant ce qui l'affecte. Un homme affaibli, tellement affaibli, qu'il semble avoir les plus grandes difficultés à se déplacer, à se traîner vers le bassin de la piscine de Bethzaata. Et il n'a aucune chance d'arriver le premier lorsque l'eau se met à bouillonner, car le premier qui descend dans l'eau à ce moment du bouillonnement est guéri. Cela explique peut-être cette foule de personnes infirmes, estropiées, aveugles, cette foule qui se presse sous les 5 portiques de la piscine. Mais lorsque Jésus survient là, autre chose fait irruption entre les portiques, près du bassin, pour l'homme tant affaibli, quelque chose qui le conduira hors de ses lieux, réveillé, debout, marchant, grabat sous le bras. Bien sûr aussi, c'est un récit de controverse entre Jésus et les Juifs, terme qui désigne les opposants à Jésus et à son œuvre, avec au milieu l'homme guéri. Controverse entre légalistes et transgresseurs, et l'on sait bien qui veut se débarrasser de qui. Controverse entre l'ordre et le sens, entre la règle et la compassion, entre la norme et le jaillissement de la vie. Parce que lorsque Jésus survient, la loi prend enfin sa place et son éclat, et son rôle qui est de baliser un chemin, pas d'être un outil de pouvoir, ni de dispenser le salut. Récit de guérison, récit de controverse, mais il suffit finalement de regarder le texte, c'est un peu pour cela que je l'ai mis sur la feuille de culte. Il suffit de regarder le texte, il suffit de considérer sa composition pour se rendre compte que ce qui est en jeu, ce qui joue, ce sont les paroles échangées. Il dit, il répondit, ils demandèrent. Tous les acteurs s'expriment. Beaucoup de paroles sont dites, adressées en mode direct ou indirect. Ce qu'elles font, ces paroles, c'est cela qui imprime son mouvement au récit. C'est cela que je vous invite à explorer ce matin, à travers ce texte du quatrième évangile, l'évangile qui commence en confessant que la parole a été faite chair. Parole Dieu en chair humaine. Une alliance que l'évangéliste pose, ce n'est pas un secret, c'est brodé tout au long de l'évangile. Il pose que cette alliance est à nouer, à renouer en chaque disciple, en chaque ami du Christ. Et ce ne sont pas tant les modalités ou les formes de cette alliance qui intéressent particulièrement l'évangéliste Jean, parce qu'elles sont nombreuses et diverses, mais surtout ce qui advient dans ce nouage et que le vocabulaire typiquement joannique désigne comme vie éternelle, une qualité de vie avant de mourir, une qualité de vie comme vie reçue, comme un don de Dieu. Que font les paroles ? Dans ce récit, certaines paroles restaurent. Elles font grandir, elles vivifient, elles encouragent, elles éclairent un présent, elles dévoilent un horizon. D'autres paroles écrasent, elles mettent à terre, elles blessent, elles rendent malades, elles épuisent, elles enferment dans une définition. Et puis d'autres paroles encore hésitent, tâtonnent, ignorantes, naïves, balbutiantes, un peu errantes, un peu en quête. Mais il se joue quelque chose de vital ou de mortel, de thérapeutique ou d'empoisonnant, de présent, de présence ou de distance dans les paroles prononcées. Que font nos paroles entre nous et en nous? Comment nos paroles nous relient-elles les uns aux autres? Comment nous rendent-elles présents à ceux qui nous entourent? Et peut-être au-delà, ce n'est pas le thème du texte, mais peut-être au-delà, pas seulement aux autres humains, aux animaux, aux végétaux, à la planète dans son entier. La parole de Jésus à l'homme sans force est une parole pour faire parler. Faire parler cet homme affaibli. Veux-tu être guéri? Étrange question. Qui ne le voudrait pas? Littéralement, veux-tu devenir saint? S-A-I-N. Qui voudrait rester malade? Mais Jésus ne présuppose rien au sujet de l'homme qu'il a vu. Il ne décide pas pour l'autre. Il a vu cet homme tellement affaibli et depuis si longtemps. 38 ans, écrit Jean. L'évangéliste fait ainsi écho par ce nombre au temps passé par le peuple sorti d'Égypte, le peuple rebelle, qui passe 38 ans dans le désert, après la sortie d'Égypte, avant d'entrer dans la terre promise. 38 ans de désert, un lieu sans parole, pour faire passer, pour dépasser leurs paroles revendiquant une liberté qui soit sans reconnaissance, sans responsabilité, sans engagement. Des paroles considérant que si la liberté est un don et pas un dû, alors elle est une charge. La mention des 38 ans par l'évangile de Jean ne signifie pas que la faiblesse extrême de l'homme serait la conséquence d'une faute ou d'un manquement. Elle indique qu'il est question de parole, de ce que produisent les paroles. Et celle de Jésus, la parole de Jésus, produit une réponse. Une réponse aride, comme un désert. Je n'ai personne. 38 ans de solitude. Pire, d'isolement au milieu de cette multitude assemblée sous les 5 portiques de la piscine de Bethsaida. Mais n'est-ce pas manquer de force, justement, que de n'avoir personne qui puisse vous porter quand vous ne pouvez plus avancer tout seul? N'est-ce pas devenir extrêmement faible que de ne recevoir jamais aucune aide? N'est-ce pas perdre sa vitalité, de ne recevoir, donner, partager aucune parole? Nous le constatons, nous l'éprouvons particulièrement depuis près d'un an. Un an de distance, de réduction, de rétrécissement des interactions, des échanges, des dialogues. Un an de repliement sur soi, chez soi, en soi. Alors même qu'auparavant, cette maladie de l'être affectait déjà nombre de nos contemporains. Alors après l'évocation du temps du désert, l'évangéliste remonte encore, ou plutôt il creuse, non pas le temps, mais l'essence même de la condition humaine, celle qui est mise en récit dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, lorsque l'Éternel qui a façonné l'humain avec la poussière de la terre constate « Il n'est pas bon que l'humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis, qu'il y soit un secours vital. » Alors dans le récit de la Genèse, l'Éternel construit à partir de cet humain la femme et l'homme, une altérité radicale, indispensable, constitutive comme toute altérité, de la possibilité de devenir soi parce que l'autre est là. Alors lorsque l'homme répond à Jésus « Je n'ai personne », il exprime le plus extrême dénuement qui puisse arriver à un être humain, la plus grande faiblesse de l'être humain, la plus grande faiblesse d'être. L'épuisement de n'avoir personne correspond à ce « pas bon » dont l'Éternel qualifie la solitude, l'absence de vis-à-vis, le manque d'un secours vital, car oui, il est question de vie et de mort. Le désert est un lieu mortel. Mais la parole de Jésus ouvre cette parole de détresse, peut-être de résignation, la parole d'un être desséché, dévitalisé, d'échec en déception, personne pour l'aider, aucune chance de descendre le premier dans l'eau bouillonnante, aucune chance de guérir. Et la seule force qui lui reste est paradoxalement ce manque. Il tente encore, il est toujours là, même s'il ne peut pas réussir. Jusqu'à ce que Jésus survienne. Jésus qui se lie, qui se relie, qui se noue avec l'homme sans personne. Jésus, le Christ de Dieu, la parole faite chair qui parle à nouveau, « Réveille-toi, prends ton grabat et marche. » Parole du Christ qui est parole de Dieu. En écho de Genèse, une parole créatrice, une parole réparatrice, une parole bienfaisante, parole de grâce et de bénédiction, parole de la puissance de la vie qui réveille, qui relève, une parole de résurrection. Réveille-toi. C'est un des deux verbes de la résurrection. Réveille-toi, ressuscite, hors de la solitude, hors du désert, car tu n'es pas destiné à la faiblesse, à la paralysie, au manque de force, de chance, d'énergie, de vitalité. La parole de Jésus rompt la terrible solitude. Elle interrompt le compte des années de désert. Et elle fait entrer en terre promise. la terre où l'on n'est pas abandonné à son sort, mais intégré avec d'autres, la terre où l'on reçoit le secours dont on a besoin pour vivre. Et c'est ainsi que Jésus donne tout son sens au sabbat, non pas un temps d'interdiction de faire ceci ou cela, mais le temps de la célébration du don de vie, de création en autorisation, de restauration en résurrection. Et ces paroles de Jésus n'attendent que d'être relayées, pas répétées telles quelles, mais relayées en écho, en résonance, en d'autres présences, les nôtres, dans ce monde de désert, de solitude, de manque de secours. Nous pouvons entendre et recevoir ces paroles vivifiantes qui nous saisissent, nous mobilisent, nous relèvent de nos fatigues, de nos échecs. Et nous pouvons parler aux enfants, aux vieillards, aux hommes, aux femmes, aux voisins, aux étrangers, à ceux qui n'ont plus de force, à ceux qui s'éteignent petit à petit, à ceux qui n'en peuvent plus d'épuisement. À eux, nous pouvons dire des paroles d'encouragement, de restauration, des paroles qui autorisent à être et à parler, des paroles adressées et ajustées qui nous relient à autrui et qui délient les fatalités. Il y a des paroles à entendre et à donner, des paroles qui font vivre, des paroles de Christ sans majuscule, lorsque nous nous nouons dans cette alliance de paroles de Dieu et de chair humaine où se tisse un autre état d'être, un autre état du monde. La manière dont nous nous parlons, cela construit le monde et participe à ce que nous y vivons. Le quatrième évangile, particulièrement, y rend ses lecteurs attentifs. Comme de ce récit où la piscine, lieu de misère, lieu de désert, est transformée en lieu de vie, en espace de création. Un lieu où advient du sacré, ni rite ni interdit, mais le sacré du jaillissement de la vie, de l'avenir, de la parole, de l'alliance. Prends ton grabat, ajoute Jésus, ce matelas de misère, ce reste de désert, de déception, de la détresse passée. Peut-être pour ne pas oublier ce qui a été traversé, pour ne plus subir, mais devenir agissant, acteur, participant, en prise enfin avec sa propre histoire, avec sa propre présence dans le monde. Peut-être aussi pour ne pas laisser de traces sous les 5 portiques de la piscine et signifier qu'un temps nouveau est advenu. Peut-être aussi pour être responsable, pas du grabat en lui-même, mais responsable, c'est-à-dire répondre de sa propre histoire. Et c'est bien ce qui arrive à l'homme rétabli, interpellé. C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. S'il y a des paroles qui font vivre, il y a des paroles qui altèrent, qui rétrécissent, qui acculent, qui font pourrir, des paroles qui gâchent et qui négligent, des paroles désertées, des paroles dans un sinistre état, pour des relations sans reconnaissance, sans compassion, sans joie, qui s'accommodent de la souffrance d'autrui, de 38 ans et plus de solitude, pourvu que soient préservées les formes. La réponse de l'homme à ce moment-là n'est pas exceptionnelle. Il ne sait presque rien et il le dit. Il n'a pas tout compris. Il ne perçoit pas encore l'ampleur de ce qui est survenu pour lui, comme s'il était un peu en retard par rapport à l'événement, un peu décalé par rapport à ce qui lui est arrivé. Sa parole est celle d'un humain qui se cherche encore, se tente, essaie une vie nouvelle dont il n'a pas encore pris la mesure ni compris toutes les implications. Les paroles, même les meilleures, les plus bénéfiques, ne trouvent pas leur accomplissement immédiatement. Il en faut d'autres, le plus souvent, Et il faut du temps, toujours, pour sortir de la paralysie, de l'enfermement, de la solitude. Avec parfois quelques pas en arrière, quelques mots un peu de travers. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une déception, ce n'est pas désespérant. La marche à laquelle Jésus a engagé l'homme, restauré, ce n'est pas un pas de danse, ni un défilé militaire, ni une procession de flagellants. C'est un pas après l'autre, avec la force qu'on a, qui vient. C'est une parole après l'autre, avec la compagnie de ceux qui se font véritablement compagnons. Et c'est Jésus qui, une nouvelle fois, se fait pour l'homme vis-à-vis et secours vital. Jésus qui le trouve de nouveau, cette fois dans le temple, et qui lui parle en allant droit à l'essentiel. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Pire que 38 ans de désert ? 39 ans ? Pas sûr. Pire que sans force ? Sans vie, carrément. Pire que seul et sans aucune chance, coupé, séparé de la source de la vie, absolument. À qui ? À quoi sommes-nous liés, reliés, accrochés parfois ? Qu'est-ce que cela fait ? Est-ce que cela fait de la vie dans notre vie ? Ces paroles, nous pouvons les adresser, parfois à nous-mêmes, parfois à d'autres, parce qu'elles participent à cette mobilisation, cette revitalisation de l'âme, de l'intelligence, de l'être, parce que leur exigence n'est pas au service d'un pouvoir qui serait à exercer sur autrui, mais qu'elle représente cette exigence, un soin de soi ou de l'autre. Parole du Christ. Parole de Christ sans majuscule, qui donne de la consistance, de la solidité, de l'équilibre et du dynamisme à l'existence. C'est bien cela que célèbre le sabbat, l'humain vivifié jusqu'à la vie éternelle. Et c'est ce sabbat que Jésus a mis en œuvre pour l'homme qui n'avait personne. Et quand Jésus le Christ fait l'œuvre de Dieu, c'est en réveillant, en relevant, en ressuscitant, c'est en restaurant, en guérissant, en réintégrant, en réconciliant l'humain en lui-même et dans l'humanité. C'est ce qu'il répond aux persécutions de ceux qui n'écoutent pas, qui ne parlent pas, sinon à eux-mêmes, persuadés qu'ils sont d'avoir raison. Jésus leur répond quand même, à ceux qui préfèrent les rites et les normes, aux êtres affaiblis comme aux êtres rétablis. Jésus le Christ ne déserte pas les déserts, qu'ils soient piscine ou temple, rue ou maison. Il ne renonce pas à rendre l'être humain, à offrir ce devenir d'allié de Dieu, pour créer de paroles bonnes en paroles fiables, de paroles vives en paroles intègres, les relations qui tiennent et maintiennent l'être et le monde. Telle est la grâce qui nous est faite. Amen.